suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes toujours fidèles à notre rendez-vous avec vous. Notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir, les injustices dans notre société contemporaine. Nous avons tous, chers citoyens, ce privilège, un privilège de se rencontrer une fois chaque semaine sur les ondes de ce plateau, sur cette plateforme publique, et à haute voix, de nous dénoncer ensemble les abus et les injustices. Nous dénonçons les actes, les agissements, les paroles, les négligences de ces fonctionnaires de l'État qui abusent de leur pouvoir sur nous, nous le public. Ils pensent qu'ils sont au-delà de tout. Sachez, chers citoyens, que c'est votre silence, votre inaction, votre ignorance qui les a rendus à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Des violeurs de loi, des abuseurs du système, des criminels en liberté, des malhonnêtes en position de pouvoir et j'en passe. Chères auditrices, chers auditeurs, dénoncer c'est aider la société à se redresser. Si réellement vous tenez à cette société qui est finalement la vôtre. Participez à ce grand projet de dénonciation. Nous avons constaté que chaque fois qu'il y a une dénonciation, des visages rougissent de honte, de regret, de promesses de ne plus franchir cette zone de feu qui brûle de temps en temps. Le numéro pour nous joindre, c'est le 514-273-4302. 514-273-4302. Et nous écrire à info@maj-quebec.com. Je répète, à info@maj-quebec.com. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement de défense des droits de la personne face au système judiciaire. Mon invité ce matin, c'est une militante pour les droits de la personne. Je peux personnellement témoigner à cet effet, puisque c'est depuis des années que je la croise dans les différentes manifestations et rassemblements populaires. Madame Nicologue a souhaité partager avec vous, chers citoyens, une expérience amère avec la justice. Elle est venue ce matin accompagnée avec une de ses meilleures copines, Madame Perlader, qui l'a encouragée de livrer son témoignage sur les ondes. Restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous allons céder la parole à nos deux invités.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après
Rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. Il faut comprendre qu'une injustice à l'égard d'une personne peut le déranger. Elle peut ralentir sa vie, peut lui enlever le goût et le charme de son existence. Une injustice n'est pas autre qu'une tyrannie qui terrorise sa victime sur une durée qui peut être indéterminée, une durée variée d'une personne à l'autre. Une injustice mal digérée peut facilement détruire, démolir, anéantir, sinon atteindre gravement la santé mentale, physique de la victime. Imaginez-vous le mal et la souffrance que vous pouvez causer volontairement ou involontairement à l'autre avec votre négligence. Voilà pourquoi il faut le rappeler sans cesse que l'injustice tôt ou tard retournera sur celui ou celle qui l'a pratiqué, qui l'a exercé. Nul n'est détenteur d'un pouvoir absolu. Le temps détruit le pouvoir et les abuseurs du pouvoir. Profitez donc d'être juste envers vous pour que vous soyez juste envers les autres. Restez prudent. Une parole, un geste, une réclamation ou une déclaration, une accusation, un témoignage, une force ou une faiblesse peut être illégale. Injustice, de lourdes circonstances sur la victime. Madame Nicole Hogg, vous êtes victime, selon vous, d'une injustice qui vous a marqué depuis très longtemps. Et vous êtes aujourd'hui venu nous dire que vous avez de la difficulté à se remettre de cette injustice. 6 ans après, vous souffrez toujours encore. Avant d'ouvrir cette parenthèse, Madame Hogg, cette plaie douloureuse, pouvez-vous nous dire votre âge, votre occupation, votre engagement? Voulez-vous nous parler un petit peu de vous?
Bonjour les auditeurs, les auditrices. Mon nom, c'est Madame Hogg. Je suis une personne...
Quel âge avez-vous, Madame Hogg?
J'ai 65 ans. Je suis sympathique et je suis...
Vous êtes engagée?
Engagée dans la défense des droits de la personne.
OK. Dans quel organisme vous êtes?
Je suis dans l'ODDS.
Oui.
Dans l'OPDS.
Oui.
Puis je suis dans les comités logements.
OK. Depuis combien de temps vous...
Ça fait au moins 20 ans que je milite pour toutes ces associations-là.
OK. Qu'est-ce qui vous a poussé à lutter dans pour les droits de la personne depuis...
Je remarque depuis plusieurs années qu'il y a de plus en plus d'injustices dans la société.
Vous l'avez remarqué, c'est ça?
Oui. Ça me fait mal au cœur, beaucoup. Oui. Parce qu'ils s'attaquent toujours. Les riches, ils peuvent s'en sortir, puis nous autres, les pauvres, on reste là.
Mais ça veut dire que vous luttez depuis très longtemps dans les organismes communautaires et en titre de bénévole et pour la défense des droits de la personne, soi-disant. C'est-à-dire, vous accompagnez les gens ou vous faisiez quoi, madame?
On les écoute.
OK.
Des fois, j'en emmène des fois qu'ils ont des problèmes pour régler les solutions.
Oui. Vous les appuyez, vous
les... On les appuie, c'est ça.
Mais vous, personnellement, avez-vous vécu un acte d'injustice?
Oui, j'ai vécu une injustice en 2004.
En 2004?
Oui.
C'était la première fois?
Oui, c'était la première fois. J'ai subi une agression. Depuis cet incident, je n'arrive pas à me remettre complètement. On dirait que j'ai une grosse charge sur les épaules.
Oui.
Mais... J'ai été victime, puis c'est moi qui s'est retrouvée accusée au bout de...
À la place de l'autre, c'est ça?
À la place de l'autre, ouais. C'est ça.
Mais vous, Madame Hogg, avez-vous des antécédents judiciaires? Avez-vous eu des problèmes avec les policiers?
J'ai eu aucun antécédent judiciaire. J'ai eu aucun problème avec la police.
Dans toute votre vie?
Dans aucune...
En aucun moment, c'est ça ce que vous voulez dire?
À aucun moment.
Mais pouvez-vous maintenant nous expliquer, madame, ce roman que vous avez dit en octobre 2006, c'est ça ce que vous voulez dire?
2004.
2004, oui. Pouvez-vous dire aux éditeurs, aux éditrices, qu'est-ce qui est arrivé?
Moi, j'habite dans un gros building qu'il y a juste des personnes âgées.
Âgées, oui.
Puis, elle m'a amené, je prenais l'ascenseur, puis il y avait une autre personne qui était là dans l'ascenseur, puis elle n'avait pas l'air d'être de bonne humeur.
La personne?
Oui.
C'est-à-dire, vous prenez l'ascenseur avec une personne qui habite dans le même building que
oui.
vous.
Oui.
Une fois dans l'ascenseur, vous constatez que la dame qui prend la même ascenseur que vous, elle n'était pas en bonne humeur, c'est
elle
ça?
Elle n'était pas de bonne humeur.
OK.
Fait que là, elle commence à...
Est-ce que vous la connaissez?
Oui, je la connais.
OK.
Puis fait que là, elle commence à me dire, « T'as-tu fini de faire des problèmes? »
Mais pourquoi elle vous a dit ça? Avez-vous eu des problèmes avec elle avant?
Jamais j'ai eu des problèmes là, oui. avec elle. Là, moi, là.
Ça veut dire qu'elle habite avec vous dans le même...
Oui, dans
la
même...
Mais vous ne parlez pas, c'est ça, ce que j'ai compris?
Non, c'est ça. Je n'y parlais plus.
Est-ce que vous saluez ou...
Même non, pas.
Même pas, parce que vous ne la connaissez pas, c'est tout.
Je suis très solitaire,
Ah, okay, c'est votre caractère qui est comme ça.
Ouais. Okay. C'est mon caractère qui est de même. Je suis très solitaire et je vis ma solitude. Puis si ça ne me tente pas de dire bonjour à quelqu'un, est-ce que j'ai le droit?
Vous n'êtes pas obligé, je comprends.
Bon, on est dans un pays libre ici, okay. J'espère.
Mais madame Hogg, vous êtes en train de me dire qu'une fois vous étiez dans l'ascenseur, madame, elle vous a traité de quoi, là? Vous a dit...
Madame, elle m'a dit, « T'as-tu fini de faire des problèmes? » Imagine-toi.
Avez-vous répliqué? Avez-vous répondu à ça?
Là, elle m'a amené, c'est elle là, qui s'est mise à me frapper.
Sans aucune, c'était aucun motif.
Elle s'est mise à me frapper, elle avait ses clés dans sa main, puis là, j'ai été dans le visage, puis elle m'a, j'étais toute tumifiée, j'étais plein de... Elle m'avait fait un trou dans la joue.
Si j'ai bien compris, ça veut dire que d'un seul coup, elle avait une trousse de clés ou des clés dans la main,
c'est ça.
Et avec ça, elle vous a frappé en plein visage, ça?
C'est ça.
Et qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, elle m'a amené. Moi, là, j'ai été abasourdie, là. Puis là, je savais plus ce que j'étais rendue. Elle a débarqué, là. Je me rappelle plus à quel étage. Je pense que c'était au troisième étage. Moi, je me suis retrouvée complètement au premier étage. Là, j'étais...
Vous savez plus qu'est-ce qui est arrivé, oui.
Ah, là, j'étais... Là, elle m'a amené. J'ai remonté chez nous. Puis là, j'ai dit, wow, bec.
Vous avez le visage, j'avais du sang.
Ah, j'avais du sang sur mon chandail.
Vous êtes frappé où?
Elle m'avait frappé aussi sur les seins.
Sur les seins. Elle vous a blessé aussi.
Elle m'a blessé aussi.
Donc le visage, les seins.
Le visage, les seins, la joue ici était. J'avais un trou.
Il y avait une ouverture. Oui, était ouverte la joue.
Il y avait un trou dans la joue.
Donc vous êtes rendu chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait, madame?
Fait que là, quand je suis rentrée chez nous, j'ai appelé mon amie de femme.
Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Pourquoi votre amie de femme?
Non, j'ai appelé mon amie de femme parce que j'ai dit, elle vient de me sauter dans le visage. J'ai dit, elle. Elle dit, attends, elle dit, j'appelle mon avocat, puis elle dit, on va lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, elle appelle son avocat, elle me rappelle, elle dit, rendez-vous tout de suite au poste de police.
Oui, mais je veux juste poser, Mme Hogue, avant de finir, pourquoi, une fois que vous êtes rendue chez vous, pourquoi vous n'avez pas téléphoné à la police?
C'est parce que moi, j'avais rien fait, puis j'ai continué de... La tête me tournait, j'étais toute...
Toute renversée, j'imagine, oui.
Ah.
Et la première chose qui s'est venue, c'est vraiment à faire appel à votre meilleure copine, j'imagine.
Oui, à ma meilleure copine, puis de me rendre au poste de police.
Oui, oui.
Puis parce qu'il disait que l'avocat, qu'elle a parlé,
oui.
C'est de prendre des photos de suite.
Oui, c'est-à-dire que elle vous a conseillé d'aller directement au poste de police comme ça,
oui.
Blessée telle que vous étiez.
Oui.
Écoutez, on va prendre une petite pause musicale et je veux revenir avec vous, madame, pour la fin de l'histoire.
C'est bon?
Ça m'a inspiré. J'ai une plume pour écrire et une oreille qui écoute. Chaque sourire m'inspire, même quand le monde s'écroule. L'écriture, ça soulage et ça sauve des vies. Il suffit de prendre sa plume et la laisser s'envoler. Libérer ses démons, c'est un instinct de survie. On écrit depuis des lunes et on se doit l'évoluer. Écrire, c'est se mettre à nu, on se dévoile, on s'expose. C'est une question d'humilité, c'est nos tripes qui explosent. C'est pour ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on se délivre. Car l'émotion qu'on ressent ne se retrouve pas dans les livres. J'écoute d'autres rappeurs, d'autres slameurs, d'autres chanteurs. J'ai appris que les mots peuvent être très enchanteurs. Mais quand je dénonce la justice, j'ai un sacré caractère. Le message vient du cœur, ça traverse mes artères.
El hombre es mucho más que carne y hueso, el dinero es menos que papel. Derramando tinta, llenando mi papel. Amigos sin mujer, como los que juegan en la sombra. Derramando sangre y explotando bombas. Corazón tan limpio, derramando tinta, explotando minas y las habilidades.
A huya tu deca, uji te pagi much, wapachigade. Capace nimo win, te fue win la pago, si win le ga, eish quase. Anima jigi angitani, mi non se nan, mi tash le tigi, donane a wiago, yani gigi gendan, ki chi uji piaman kapi, inadi zian. Souvent incompris, c'est par la force des mots qu'on bâtit cette résistance. On a trouvé notre façon de prouver notre existence. On trouve aussi que l'espoir peut renaître. On l'a trouvé le remède, mais il suffit d'être honnête. Dans le cœur d'un poète, on retrouve l'humilité, la sincérité, une liberté illimitée.
El hombre mucho más que carne y hueso.
Donc, rebonjour, chère auditrice, chère auditeur. Donc, on reprend l'histoire de Madame Nicologue et cette agression. Madame Og, rebonjour. Je veux savoir, Madame, une fois vous étiez attaquée, agressée dans l'ascenseur, vous avez dit que vous êtes rendue chez vous et vous avez communiqué avec une de vos copines. Et vous m'avez aussi expliqué comme quoi vous n'avez pas pu appeler la police parce que vous étiez complètement étourdie.
J'étais très étourdie. Là, je ne savais plus là, où est-ce que j'étais. Là, j'étais... abasourdi au bout. Là.
Et c'est la première chose qui
puis
est venue.
Je pleurais, puis je faisais que pleurer.
Et la première chose qui est venue, c'est à votre esprit, c'était vraiment d'appeler votre...
D'appeler ma copine.
Parce qu'elle était plus proche, j'imagine, à vous. C'est ça?
Oui, c'est ça.
OK. Et qu'est-ce qui était arrivé après, madame? Elle a appelé son avocat, j'imagine? Que vous...
Oui, elle a appelé son avocat, puis là, son avocat, il a dit à elle, elle m'a rappelé, il nous a dit, rendez-vous au poste de police tout de suite, puis faire prendre des photos.
De l'agression. Voilà. Donc,
c'est ça qu'on a fait.
Vous êtes rendu au poste de police.
Mon ami est venu me rejoindre au poste de police. Puis
quel poste,
avec
quel
moi.
Poste de police, madame?
Le poste de police 23 sur Hochelaga.
OK. Donc, vous êtes rentré. J'imagine que vous avez le visage qui est saigné et tout.
J'avais plein d'échymoses. J'avais un trou sur une joue.
Oui.
Puis plein de sang.
Donc, vous êtes présentée au poste de police. Qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Bon, là, après ça, là, la police, elle nous a fait une entrée dans son petit...
Dans son local, oui.
Oui, dans son petit local, là. Fait que là, il y a un policier masculin, il est venu me prendre 3 photos.
OK, directement de l'agression. Oui.
De l'agression.
Oui.
Fait que là, j'ai porté plainte.
Et vous avez déposé votre rapport, j'imagine?
Oui, j'ai déposé plainte contre la celle qui m'a agressée.
OK.
Puis, tout ça, là, tout ce que j'ai dit...
Et est-ce qu'eux, ils ont gardé, le poste de police, ils ont gardé des photos aussi, quand ils ont
fait
des
photos? Oui, eux autres,
parfait.
Là, il y avait les
dans le rapport, c'est ça?
Eux autres, dans le rapport.
Et après ça, vous êtes rendu chez vous, vous avez fait quoi?
Là, après ça, je me suis... on est allé au local de l'ADDS.
Oui, pourquoi?
Avec mon ami, puis...
OK.
Montrer mes blessures là, que j'avais subies.
OK. Et vous avez resté combien de temps après pour avoir une réponse? Est-ce qu'il y a un enquêteur qui est rentré dans votre dossier? Ou...
Oui. Là, après ça, eux autres, là, mettons, la policière, là, pas trop d'expérience.
Laquelle?
Elle s'appelait Julie Normand.
Pourquoi vous disiez qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience? Comment vous savez qu'elle n'a pas d'expérience?
Ben, elle paraissait jeune, tu sais, là.
OK. Vous l'avez jugée comme ça, sur l'âge, oui?
Ah, peut-être, je sais pas, 3-4 ans d'expérience, 5 ans, là.
OK.
Puis, fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, là, j'ai déposé la plainte, là. Puis...
Ah, on a compris, là, vous avez déposé la plainte, vous êtes partie. Oui. Vous avez attendu combien de temps pour quelqu'un qui rentre avec vous dans le contact, qui vous a contacté, là, pour...
Ah, mon Dieu, ça a pris plusieurs mois, ça a pris au moins...
2-3 mois, 4 mois, combien?
Vois-tu, c'est arrivé ça au mois d'octobre.
Oui.
Puis c'est arrivé ça, je crois, c'est au mois de février, mars, que la sergent détective José Gagnon...
Elle vous a communiqué avec vous.
Elle a communiqué avec moi pour que...
Vous a convoqué ou...
Elle m'a convoqué pour que j'aille faire prendre mes empreintes. Hey, j'étais une grosse criminelle.
Ah, my God. Mais vous attendez que vraiment avoir le suivi de votre plainte, hein, l'agression.
Oui.
Et d'un seul coup, vous recevez un appel de l'enquêtrice comme quoi vous devrez se présenter pour prendre
au centre opérationnel Sud,
vous m'avez dit.
Sur l'Angelier, au coin métropolitain.
Quand vous avez eu la convocation comme quoi vous devrez se présenter pour prendre vos empreintes...
Fait que là, elle me dit, elle, Josée Gagnon, là, la sergent détective, a dit, je vous fais venir, puis elle dit, l'autre aussi, elle va venir. Mais j'en doute que l'autre, elle l'a fait venir, parce qu'il n'y a que moi qui a eu des accusations
aux
criminels.
C'est vous
qui
êtes accusé.
Quand on dit que c'est une plainte croisée...
Oui.
les deux auraient été supposés d'être accusés. Il y a juste moi qui ai été accusé.
Oui, c'est dommage.
Ça, là, c'est très dommage. Ça fait que... Ouais.
Mais excusez-moi, madame...
La police, là, on n'a plus de respect du tout pour eux autres.
Non, mais
ils
ne
font
madame,
pas bien leurs ouvrages.
Là, j'ai bien compris ça. Mais dis-moi, madame, une fois que vous êtes rendue au poste de police et vous avez rencontré l'enquêtrice dans le dossier, est-ce que vous l'avez expliqué que quoi, madame, écoutez, là, j'ai des photos, j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que vous l'avez...
Moi, à un moment donné, là, je l'ai appelée au téléphone.
Non, elle vous a convoqué. Vous êtes rendue chez elle.
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé, madame, dans son bureau?
Bon, mettons, là, à un moment donné, je l'ai rappelée. Après que ça a été fini, là, qu'est-ce qu'elle m'a... Elle m'a tout demandé au téléphone. Elle doit avoir un rapport de ça, elle.
Non, mais vous m'avez dit tantôt qu'elle vous a convoqué au poste. Est-ce que vous avez convoqué au poste juste pour prendre des empreintes, c'est tout?
Prendre des empreintes, là, puis elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé.
Voilà, donc tu as redonné une autre version, c'est ça? Ou vous avez gardé la première version?
Toujours la première version.
Et qu'est-ce qu'elle
a
décidé?
Elle a dit l'autre aussi, elle va venir... faire sa déclaration.
Mais l'accusation, c'était toi qui t'es accusé dans le dossier.
C'est rien que moi qui étais accusé dans le dossier. C'est ça là, que je coupe. Il y a des failles sûrement dans ce dossier-là.
Oui, mais c'est pas,
il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail.
Là,
puis, elle m'a déjà dit, la sergent détective, qu'elle n'avait jamais eu les photos. Ah, oh, ben, hey!
Voilà. Quand vous lui avez parlé des photos, elle ne savait pas de quoi vous parlez, c'est ça?
Oui, c'est ça, là. Parce qu'elle m'a amené à penser que c'était moi qui s'était photographiée.
Ah, vous-même?
Oui.
Et pourtant, j'ai bien compris, les photos étaient prises par un policier du poste.
Par un policier, il s'appelait David Baudin, du poste 23.
Et comment vous expliquez? Elle n'était pas rendue compte, elle n'a pas remarqué, peut-être elle n'a même pas lu le
probablement
rapport.
Probablement, elle n'a jamais lu le rapport de police.
Et elle vous a acquis directement?
Oui.
Mais c'est quoi? C'est une... Ça, c'est des grandes négligences. Je dis-moi, madame, après cette histoire-là et cette accusation-là, vous êtes allée, j'imagine, à la cour, j'imagine.
J'ai passé 5 fois à la cour municipale.
Oui.
Je me suis présentée là 5 fois. Eux autres, ils avaient envoyé un suppléant à l'autre. Elle ne s'est jamais présentée.
Mais je suis chef d'accusation de voie de fait, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes allée, tu m'as dit, 5-6 fois à la cour.
Oui, 5 fois je suis allée.
5 fois, et madame, elle s'est jamais présentée.
Jamais qu'elle s'était présentée. La 5e fois, j'ai été acquittée.
Acquittée. Elle s'est pas présentée.
C'est rocambolesque.
Oui, elle s'est pas présentée, j'imagine.
Ben non, elle avait la chienne dans ses culottes.
Oui. Mais depuis, madame, toute cette histoire-là, vous étiez acquittée. Qu'est-ce que vous avez fait après? Est-ce que avez-vous posé une plainte contre...
Après, j'ai déposé une plainte en déontologie policière
contre
la sergent détective José Gagnon du centre opérationnel Sud.
Parce qu'elle a...
À Télé-Québec, c'est l'heure du retour au jeu pour Tactique. Nouvelles intrigues, nouveaux personnages et petites frictions sur le terrain. Tactique en semaine 18h30 ou midi à Télé-Québec, l'autre télé.
En ondes depuis 1991, Folie 12 vous informe sur les différentes facettes du monde de la santé mentale. Soyez des nôtres chaque jeudi matin de 10h à 11h sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal. Attention, cette émission peut provoquer la dépendance. Nous préférons vous en avertir.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant longtemps.
Tant longtemps, une émission de musique rétro agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne. Des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps.
Tant longtemps, animé par Brady Donicien et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Tant longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer.
Vous roulez paisiblement et gardez toujours une distance sécuritaire.
Ah, bravo!
Vous continuez votre chemin, entrez sur l'autoroute et cédez le passage.
Excellent!
Finalement, tout près de votre destination, vous respectez un passage piétonnier.
Hey, merci!
Sur la route, la courtoisie, ça commence par le respect du code de la sécurité routière.
On est tous responsables de notre conduite. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
platon. On se couche quand il se lève. Le monde est beau et souriant. Et notre vie n'est plus qu'un rêve. Dans leur tête d'adolescent. L'argent, l'amour, les grands voyages, la gloire acquise à bon marché, toute la panoplie d'usages que dément la réalité. Chanter, ce n'est pas ce qu'on vous proclame. Chanter, il faut s'y jeter à tue-tête, à bras le cœur, à fendre l'âme. Avec un seul point au programme, celui de n'être sûr de rien. Celui de n'être sûr de rien. Avoir une santé de fer, de la chance avec le talent, et cette faculté de faire un sourire en serrant les dents. En écoutant claquer les portes sur votre nez à deux battants, penser le diable les emporte, croire en hiver à son printemps. Pour une vedette miracle, j'en ai tant vu depuis 10 ans, depuis 20 ans encore qui raclent leur guitare dans les bœufs blancs. Leur vie passe par des lueurs d'espoir et de renoncement. On les voit marcher lentement, un verre qui leur ronge le cœur. Chanter, c'est parfois comme un mélodrame. Chanter, face à face avec soi-même. On joue sa vie à qui perd gagne, avec le temps qui vous désarme. Chanter n'est pas faire semblant. Chanter n'est pas faire semblant. Mais si ces propos vous irritent dans leur sombre réalité, vous allez les jeter bien vite et n'en faire qu'à votre idée. Si vous sentez du fond de l'âme et du ventre jusqu'à vos mains brûler cette petite flamme contre laquelle on ne fait rien. Dans l'allégresse ou la démence, vous partirez un beau matin en suivant le chemin d'errance des saltimbanques musiciens. Soit belle la bohème, que soit clément votre destin, il faut vivre ce que l'on aime en payant le prix qui convient. Chantez, chantez comme on dirait je t'aime. Chantez, en allant au bout de soi-même. Chantez comme on lance un sésame face au public qui vous acclame d'avoir le monde dans ses mains, que d'avoir le monde dans ses mains.
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Excusez-moi, Madame Dael, juste avant de revenir avec vous, j'aimerais bien poser une question à Madame Hogg. Vous avez dit que vous avez déposé une plainte à l'autorité policière pour contre la enquêtrice dans le dossier. Et ça a donné quoi cette
J'ai déposé une plainte en déontologie, puis ils m'ont refusé de poursuivre la plainte.
Mais c'est quoi les motifs de refus, Madame?
Oh, les...
À peu près, c'est quoi? C'était.
Il disait, ma chambre, c'était non fondé.
C'est non fondé, comme quoi madame, elle a fait son travail comme il faut et tout.
Oui,
c'est ça. Et je sais aussi, madame, que si, par exemple, vous étiez reconnue coupable, vous avez pu perdre votre logement aussi.
Oui, si j'avais été reconnue coupable, j'aurais pu perdre mon logement où est-ce que je reste.
Donc, parce que vous étiez allée à Régie des loyers aussi?
Oui, l'office municipal m'a emmené à Régie des loyers.
Suite à cette histoire-là.
Suite à cette histoire-là. Puis,
qu'est-ce qu'ils ont
compris? Ils ont retiré leur plainte, eux autres. Oui. Puis, moi aussi, j'ai retiré ma plainte. Fait que tout s'est terminé comme ça. Mais quand ils ont vu que la dame, la, avec sa corpulence qu'elle avait, ils ont compris qu'il en avait une qui en a mangé une.
Oui, je comprends. Mais ça veut dire que tout ça, toute cette histoire-là et cette douloureuse, depuis des années, vous portez Marc et vous portez cette souffrance-là, c'est à cause d'une enquêtrice, d'une personne qui a fait qui a mal fait son travail.
Ouais.
Merci. Je passe directement à Madame Dair. Vous connaissez Madame Hogg depuis combien de temps, Madame?
Moi, je connais Madame Hogg depuis plus de 15 ans.
Oui.
On avait une belle équipe ensemble dans l'organisme la DDS.
Oui.
Et notre mission, bien sûr, on avait un mandat humain surtout pour aider les gens, les soutenir, les acheminer vers les bons endroits pour pouvoir porter leurs plaintes. Et croyez-moi,
excusez-moi, vous êtes deux militantes, si j'ai bien compris.
Nous sommes, et bien sûr, nous sommes deux militantes. Oui, ardues,
ayant à temps plein.
À temps plein. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'on avait presque à chaque jour une dizaine de plaintes. Et ça débordait de l'injustice.
C'est où les plaintes que vous avez? Vous parlez de quelles plaintes?
Des plaintes contre la police, contre l'injustice sociale.
Mais à quel lieu, à quel endroit vous parlez? De l'organisme?
De l'organisme, oui. On faisait partie de l'organisme, de la DDS. Oui.
Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Mme Hogg? Est-ce qu'elle vous a parlé à un moment donné, depuis l'incident?
Bien sûr, quand c'est arrivé, ça, bien sûr, nous avons été au courant à l'organisme.
Tout le monde a été au courant,
et surtout moi, parce que on était tout le temps trop proche avec elle.
Oui.
Alors j'étais stupéfaite d'apprendre cela, j'étais hors de moi-même parce que j'ai vécu moi aussi une injustice de
policière. Mais avant de parler de vous, Madame, dans quel état elle était, Madame Hogg, quand elle vous a fait part de cet incident?
Dans un état vraiment terrible. Elle tremblait, puis elle bégayait, elle n'arrivait même pas à expliquer ce qui s'est passé. Elle souffrait, en santé, bien sûr que c'est une souffrance qui est physique, morale, et elle-même n'arrivait même pas à croire ce qui était arrivé.
Oui.
Parce que imaginez-vous là, être frappé par quelqu'un, et puis tous les blâmes sont sur vous là.
Mais je comprends, c'est-à-dire c'est elle qui était la victime, et en fraction de seconde, elle devient l'accusée, c'est ça?
Oui, puis on a remarqué bien sûr à l'organisme qu'elle n'était plus la même. Elle avait les yeux hagards, puis elle pensait toujours à ce qui est arrivé là, surtout qu'après un certain temps là, nous pouvons obtenir justice, ça l'a beaucoup marqué.
Mais depuis 2004, l'incident était début 2004, je pense octobre 2004 jusqu'à présent. Est-ce qu'elle a continué toujours de porter ce fardeau d'injustice? Est-ce qu'elle vous a toujours fait part ou à un moment donné elle a oublié, elle a effacé cette histoire-là?
Bien, d'après moi, elle ne va jamais cesser.
Oui.
Elle ne cessera jamais. Elle va aller jusqu'au bout.
Quand vous dites, elle va aller jusqu'au bout, ça veut dire avec quoi?
Jusqu'au bout d'obtenir justice, parce que ce qui s'est passé avec elle, imaginez-vous, un sergent détective qui est là pour l'aider, pour trouver, pour être partiel. Être impartiale, elle a pris la part de notre personne et elle a ignoré les photos qui ont été prises par la police elle-même. Donc, elle était au courant sûrement
de ces photos. Je ne pense pas qu'elle était au courant, parce que sinon, je pense que peut-être
elle a ignoré. Non, je ne sais pas, d'après moi, monsieur, je m'excuse là. Je pense que, parce que ce n'est pas possible, une sergent détective, elle a tous les rapports de la police.
Ouais.
Donc, elle était sûrement au courant que ces photos existaient, mais elle les a ignorées. Ça, c'est mon opinion.
Peut-être, elle les a ignorées, négligence, ignorance, ce que vous voulez.
Et ça, c'est mon opinion.
Ce que je veux savoir aussi, Madame Hogg, peut-être la question pour les deux, est-ce que pensez-vous que ça vaut la peine vraiment de traîner une histoire comme ça derrière vous, dans votre vie comme ça, et ça peut vous rendre de plus en plus malade, vulnérable?
Est-ce que vous ne pensez pas
que ça serait mieux de fermer le dossier et...
Je vais vous interrompre, monsieur, excusez-moi, là, parce que c'est primordial de continuer la lutte, de continuer les plaintes pour essayer justement d'essayer que les gens là qui font du mal, qu'ils essaient de comprendre toute l'ardeur de cette souffrance que les personnes subissent.
Oui.
Et plus il y a de plaintes, plus je crois les gens qui sont eux responsables de notre souffrance, il se peut qu'un jour ou l'autre ils peuvent comprendre et essayer d'éviter tout le mal qu'ils nous font.
C'est très bien dit aussi, hein, donc ça veut dire nous nous sommes justement ici pour dénoncer.
Ouais, dénoncer.
Donc la dénonciation, ça peut, à votre avis aussi, ça peut venir en aide à des gens aussi.
Et
ça peut réveiller les gens pour leur dire arrêtez un petit peu, cessez de votre abus.
Et comment? Il y a trop d'abus de pouvoir, trop d'abus de pouvoir qui brisent la vie, notre vie, qui brisent la vie des gens. Et pas seulement ça, monsieur, excusez-moi, mais il y a la vie de tous les membres de la famille qui payent le prix. Oui. Ils sont innocents, ils n'ont rien fait. Même la personne, pourquoi elle lutte? Pourquoi est-ce qu'elle continue à porter plainte? Parce qu'elle est innocente.
Vous, alors, j'imagine, madame Madas, si vous m'excusez, vous passez à travers un cauchemar, vous n'avez jamais obtenu justice jusqu'à présent depuis des années et des années, et vous continuez, et je vois aussi, je remarque que ni votre âge, ni votre santé ne le vous permet, et vous insistez à continuer le combat.
Bien, je continuerai jusqu'à la fin de ma vie, là, jusqu'à mon dernier soupir, parce que j'ai été agressée par 3 policiers, ce qui est effroyable, odieux, inhumain, de trouver un policier et 2 policières qui vous traînent, qui vous agressent, oui, pendant qu'ils savent qu'ils sont là. Les policiers, ils ont un mandat. Et ce mandat-là, nous le respectons. Pourquoi on le respecte? Parce que comme citoyen, on n'a pas d'autre secours, on n'a pas d'autre défense. Alors
oui,
imaginez-vous, là, un policier là, qui est là, qui a un mandat de nous protéger, de nous soutenir, de nous aider. Au lieu de faire ça, il abuse de son pouvoir. Alors, dès qu'ils deviennent policiers, ils portent l'uniforme, malgré qu'ils ont prêté serment, malgré qu'ils ont été initiés à tant de choses, là, ils abusent de leur pouvoir. Une fois qu'ils ont l'uniforme de policier, c'est fini, ils n'arrivent plus à se concentrer. On dirait que c'est un défoulement sur les personnes, qui sont innocentes, des personnes qui sont vulnérables.
Ouais.
Alors, mais il faut dire aussi qu'il y a de bons policiers, ils sont très peu, c'est vrai. Mais
il ne faut jamais généraliser. Moi, je connais des très
vrai,
bons policiers.
Moi aussi. Moi, je connais aussi de très bons policiers, mais ils sont tellement peu nombreux, là. On peut les compter sur les doigts, là. Et ce qui se fait, c'est que ces policiers-là payent le prix parce qu'on ne parle plus d'eux.
Ouais.
Il y a tellement de mal qu'on ne parle plus d'eux. Dernièrement, je me suis rendue au poste de police 27.
Oui.
J'ai rencontré une commandante qui s'appelle Madame Carole Lalande. Et
la commandante du poste?
La commandante du poste, parce que j'avais un problème, un simple problème. J'avais été pour demander de l'aide, pour l'agression dont j'avais été victime.
Mais vous parlez c'est le poste dans votre quartier, c'est ça?
C'est le poste de mon quartier d'Hansik,
oui,
le 27. Et bien sûr, c'est... Comme je viens de vous dire, je continue ma plainte. Alors c'est sur cette base-là que je me suis rendue à mon poste, croyant avoir vraiment l'aide qui est nécessaire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait, avoir une rencontre avec une psychosociale. Alors moi, j'ai
ça
été...
La commandante, elle vous a reproché que vous n'étiez pas normal ou quoi?
Mais c'est pas que j'étais normal. Elle disait que je devais me faire traiter pendant que moi, même si j'étais en santé mentale, c'était là que je devais avoir l'aide qu'il fallait. Je lui dis, madame, moi, j'ai pas besoin que vous me fassiez rencontrer une psychosociale, parce que j'ai déjà mon psychologue, j'ai déjà mon psychiatre, j'ai déjà mon médecin traitant, mais je suis pas une folle.
Ouais. Mais vous allez la voir pour qu'elle vous demande de l'aide, c'est ça?
Exactement, pour l'agression que j'ai eue.
L'agression. Pour redéposer une plainte ou quoi?
Oui, exactement, parce que non, je n'avais pas encore posé une plainte au criminel. Il fallait que je pose, on m'avait conseillé que j'avais le droit de pouvoir porter plainte au criminel.
Et cette commandante, madame, elle a fait quoi?
Elle n'a absolument rien fait. Au contraire, elle m'a accusée injustement.
Pourquoi?
En disant que moi, j'ai harcelé le poste de police. Et en plus, elle a dit que moi, j'ai porté plainte contre les policiers du SPVM pendant qu'elle n'avait aucune preuve que je n'ai jamais porté plainte. Et je lui ai demandé, donnez-moi les preuves que j'ai porté plainte contre des policiers.
Ça veut dire
que
c'est la commandante elle-même, à la place de vous aider, elle vous a intimidé carrément.
Ça, seulement intimidé. Mais elle m'a défendu carrément de contacter le poste de police qui est mon poste. Même au cas d'urgence, même si j'avais droit à une ambulance, à supposer que j'ai... Donc, je n'avais plus le droit de leur téléphoner.
Madame Daher, on arrête là, on prend juste une petite pause musicale et on va revenir avec vous pour finir fin de l'histoire.
La nuit, quand je m'en vais, un rêve découvert. Quand
j'ouvre mon écluse à toutes les dérives. Cuba, dans un remous de crocodile vert. Cuba, c'est chez toi que j'arrive. Je rencontre un vieux nègre aux yeux de bois brûlant, assis devant la mer, grain de café torride, le front dans le soleil, il me montre en riant, là-bas, les côtes de Floride. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si. Il dit j'ai vu Harlem, il dit j'ai vu New York. Et noir, j'avais si peur devant les chiens à nègre que j'aurais préféré la peau rose d'un porc collée sur ma poitrine maigre. Et maintenant, Cubain, pauvre comme Cuba, je suis libre et ma femme a la couleur du sable. S'il n'y a rien à manger, on danse la conga, mais les chiens restent sous la table. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si. Adieu mon rêve à la peau brune, mes éperons d'argent sonnent sur tes galets, et mon cheval rêvé qui renifle la lune piétine déjà l'eau salée. Que je devienne un jour un vieux singe ridé, que le ciel de Cuba se brise comme verre. Je sais que l'on peut vivre ici pour une idée, mais ceci est une autre affaire. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si. Cuba, 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 si. Cuba, Cuba, si.
Oui, donc, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Je reviens avec notre invitée, Madame Nicologue. Je reviens avec Perlette, avec Madame Perlader. Madame Perlader, vous nous avez parlé de cette histoire-là avec le contact avec la commandante du poste 27. Oui. Et donc, j'étais allée la voir. Si vous pouvez me rappeler pourquoi.
J'ai été pour demander premièrement de l'aide.
Oui, ça, j'ai compris.
Et quand j'ai vu que la madame là.
L'aide concernant quoi?
Une plainte? Une plainte contre les deux policiers?
Du poste?
Du poste de police de 27, oui.
Okay. Ah, que vous êtes allé voir l'air supérieur, la commandante, pour leur dire, écoute, voilà que c'était arrivé avec deux policiers là-bas.
Exactement.
Vous reprochez des...
Je reproche à la policière là, qui était une psychosociale, ouais. Et je me demandais pour quelle raison il me fallait une psychosociale. C'est vrai que moi, je suis en santé mentale, mais je ne suis pas une folle. Donc elle me prenait juste pour une folle en me disant, hey, allez vous soigner.
Vous voulez dire que la commandante, elle trouvait ça facile plus facile pour elle pour te dire, madame, vas-y soigner là.
Exactement.
Pour éviter que vous déposiez une plainte.
Exactement.
Oui.
Exactement. Elle ne voulait pas du tout que je porte plainte. Alors, pour malgré que je ne veux même pas porter plainte, donc elle n'a aucune preuve, elle est allée contacter, envoyer une lettre au siège social de la police pour les aviser que j'avais déjà porté plainte contre ces deux policiers dont elle est la supérieure, dont elle est la commandante.
Et vous n'avez jamais encore déposé la plainte?
Jamais, je ne lui ai même pas dit. J'ai parlé à
donc
elle.
Donc, elle a fait des avances avant même qu'il y avait quelque
exactement.
Chose.
Exactement. Et ça, pour prouver que comment ils savent entre eux se justifier et prendre avant
se
tout les devants.
Eux,
exactement.
Je veux savoir, madame, d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous avez souhaité quand vous étiez allée la voir, la madame commandante? Vous étiez allée la voir, sollicité de voir la commandante des postes, la chef du poste.
Hein. Quand on m'a téléphoné pour me dire que j'avais rendez-vous avec la commandante, j'étais pleine d'espoir.
Oui.
Je suis allée vraiment, mon Dieu, c'est fini, mon problème va être réglé. J'étais tellement contente. Et en allant là-bas, tout ce que j'ai trouvé accueil,
oui.
C'est qu'elle a commencé à prendre mes documents
c'est la commandante,
voilà,
ça, oui.
La commandante, puis d'un coup elle m'avait promis qu'elle allait faire le nécessaire pour obtenir justice,
oui.
Puis elle s'est levée en me disant, madame, vous n'avez plus le droit de contacter ici parce que on n'arrive plus à régler les autres dossiers. Alors je dis, madame, simplement en me faisant venir ici pour me dire simplement ça, il fallait simplement me contacter, me dire que j'allais faire le nécessaire, au lieu de m'humilier, parce que j'ai reçu une humiliation maintenant ici, en me disant que je vais aller...
Une humiliation de la part de la commandante.
Imaginez-vous. Oui. Imaginez-vous être traité comme une personne en santé mentale, pendant que je suis une personne très lucide, je suis une personne très normale, mais j'étais affectée au plus profond de moi-même. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ouais. Ils ne pourront jamais comprendre ça.
Oui, mais je comprends aussi que vous avez, pour peut-être conclure, c'est-à-dire que pour elle, pour la commandante, que c'est elle à voir, il faut solliciter son aide et tout, c'était pour elle plus facile
de me mettre dehors.
Avec
et de m'accuser.
De vous accuser comme quoi.
De m'accuser
êtes,
comme quoi.
Dans votre esprit, quoi. Je reviens à Madame Nicole Hogg. Vous, j'imagine, est-ce que vous avez senti une humiliation dans votre cas aussi de la part...
L'injustice que j'ai subie, j'étais très malheureuse.
Oui.
J'ai été humiliée profondément, affectée.
La famille autour de vous, madame, qu'est-ce que vous avez
à dire? Je me défoulais sur eux autres.
Sur la famille?
Oui.
Donc, il y avait affecté même la famille autour de vous?
Même la famille à l'entour de moi, ils ont été affectés à cause de ça.
Directement, oui.
Oui.
Et quand vous parlez de l'humiliation, vous sentez toujours cette humiliation? Est-ce que vous arrivez à se débarrasser de tout ça?
Je suis allée voir un psychiatre.
Pour ça?
Oui.
Pourquoi vous sentez-vous que vous avez un problème?
Je suis allée voir pour voir si j'avais un problème, mais non, c'est parce que ça m'a touchée énormément.
Ça a trop duré, vous pensez?
Oui, c'est ça.
Ça vous a bouleversé.
Ça m'a bouleversé, fait que
c'est difficile hein, de passer
c'est très
à travers.
Difficile
des expériences
de passer.
Très dures aussi. Hein.
Quand on subit une injustice, c'est très très dur.
Oui, je me demande ces gens-là qui posent.
On dirait que ça fait une tache puis ça a bien de la misère à partir.
Ah, c'est facile, oui. Madame d'ailleurs.
Moi, j'aimerais dire un petit mot. J'aimerais dire un petit mot.
On a juste souligné que Madame Dern, on l'a déjà reçue sur le plateau il y a quelques mois. Et puis, elle nous a fait part aussi de cette injustice-là. Et qui, je la vois aujourd'hui, je l'observe aujourd'hui. Et je vois énormément de tristesse sur son visage. Et ça
trop de tristesse. Surtout, pas parce que ça m'a affecté personnellement, mais ça m'a affecté ma famille. Parce que je ne pouvais plus supporter, je ne parlais que de ça. Dans la rue, je pleurais. Au métro, je pleurais. Alors, ça fait que je suis devenue par les gens, là, ils me regardaient, personne ne comprenait qu'est-ce qui se passe. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit tout ce qu'il y a de meilleur en moi. J'aimerais dire un petit mot seulement nous, les immigrants, parce que je suis immigrante, je viens du Liban, je suis libanaise. Et ce qui s'est passé, je veux dire simplement un mot que tout le monde comprenne. Partout, que les immigrants, lorsqu'ils viennent émigrer ici, dans ce pays, ils ne viennent pas pour être riches, ni pour faire fortune. Ils viennent justement pour assoiffer de la justice. Assoiffer de la justice, et jusqu'à maintenant, je suis meurtrie. J'ai été humiliée par mon poste de police, par des policiers eux-mêmes qui avaient le mandat de m'aider, de me protéger, de me soutenir. Je n'ai reçu que humiliation, agression physique, agression morale, et toute ma vie est détruite. Regardez dans quel état je suis, et ça fait déjà 6 ans que moi je souffre, et autour de moi, tout le monde souffre de me voir ma souffrance, parce que personne ne me reconnaît, tout le monde, quand je rencontre des gens dans la rue ou n'importe où, mais où tu es toi, comment on parle, mais où tu es, tu ne me reconnais plus, je le regarde avec les yeux hagards parce que je n'ai rien dans la tête, que comme si c'était arrivé au même moment.
Madame, peut-être je passe la parole aussi à Madame Nicologue. Avez-vous quelque chose à dire, à ajouter à propos de ça?
C'est que le service de police, avec le nouveau directeur, j'espère que ça va changer.
Ah, OK. Donc, il y a... Oui. Avec Monsieur Parent.
Monsieur Parent.
Marc Parent, oui.
J'espère que ça va changer.
Vous pensez que vous, le responsable de la police, présentement, il va apporter des changements?
Je le souhaite de tout cœur.
OK, bien. Écoutez, là, pour le moment, on va faire une petite pause musicale et on va revenir avec vous. Avec la fin, le mot de fin, peut-être.
Allez.
Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, malheureusement, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons déjà épuisé notre temps. J'aimerais remercier nos deux invités, Madame Nicologue et Madame Perletter, d'avoir ce courage et cette franchise de venir témoigner sur ce plateau. Je remercie Madame Mario Languet, technicien de son et collaboratrice à cette émission. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et à lundi prochain.
Télé-Québec fait preuve de légitimes dépenses. Cette semaine, tout ce qu'il faut savoir sur le mandat d'inaptitude et vendre ses bijoux en or par la poste, payant ou non. Légitimes dépenses, ce soir, 19h à Télé-Québec. L'autre télé.
Spectacles, événements, actualités, dossiers politiques, culturels, sociaux, tout cela et plus encore les mercredis à 4h30. Pour découvrir la métropole à travers les yeux de la génération Y, écoutez Planète Montréal, la rumeur de la ville.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Fondation Fabienne Cola et Global Montreal vous invitent au 6e Festival international du film Black de Montréal du 22 septembre au 3 octobre. Venez découvrir la culture noire des quatre coins du globe à travers les plus grands films Black. 128 films palpitants, 100 premières, 25 pays. Admission, 10$ par film ou passeport de 10 films, $50 ou encore passeport illimité, $95. Du 22 septembre au 3 octobre au Cinéma du Parc et à l'ONF. Info et programmation montrealblackfilm.com.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.